Et bonjour, bienvenue dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDIWA 107.5, 101.7 pour le pays de Luc en Diwa. Mais on est bien content de vous retrouver en cette nouvelle année 2024. Ce soir, ce matin, dans le studio, c'est Fred qui vous parle et il y a Axel aussi.
Oui, bonjour à tous.
Alors on salue Pierrick et Rémi qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui, mais qui font partie de notre équipe. Alors on en est au 56e épisode de l'Étoile Polaire. On s'en excuse, pas mal de temps entre l'épisode 55 qui était courant du mois de décembre et puis cette nouvelle année. D'autant plus que le dimanche 21 janvier, il y avait les 12 ans, l'anniversaire de RDIWA, et donc les 24 heures de studio, 24 heures de direct qui se sont déroulées de façon, ma foi, fort festive et intéressante.
Ils nous ont volé notre créneau.
Ils nous ont volé notre créneau, voilà. Mais on ne leur en veut pas du tout.
Ben non.
Voilà, alors on a quand même une petite annonce à vous faire. C'est que l'émission, on va devenir bimensuelle. C'est-à-dire qu'on va faire une émission tous les 15 jours. Et donc, il n'y aura qu'une seule rediffusion à chaque fois de l'épisode au lieu des, en moyenne, 3 qu'on faisait d'habitude. Deux rediffusions.
Deux rediffs, voilà. Oui.
Puisqu'on faisait à peu près une émission toutes les 3 semaines. Donc là, on va accélérer un petit peu le rythme. Ça veut dire peut-être aussi des émissions un chouïa plus courtes, mais bon, c'est pas sûr. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, on sera là plus présent. On sera aussi du coup un peu plus proche de la réalité du ciel ce soir, parce que c'est vrai que dans cette rubrique, quand on enregistre toutes les 3 semaines, ben, en 3 semaines, le ciel, il a quand même un petit peu changé. Donc voilà, un peu plus aussi près des événements du ciel à vous communiquer pour pouvoir anticiper de belles observations. Alors on vous rappelle qu'il y a toujours le podcast de l'émission. Vous allez sur le site de RDIWA, rdwa.fr, ensuite émission, puis émission thématique, et là l'étoile polaire, hein, L'apostrophe, où vous retrouvez donc tous les épisodes précédents en ligne, illustrés par des photos d'astronomie de l'équipe, principalement Rémi et Axel. Voilà, on vous redonne aussi le mail de l'émission, astro-rdwa@protonmail.com, comme un proton. Ça vous permet de nous joindre si vous en avez l'envie, nous poser des questions, ou aussi si vous avez envie de venir participer à notre rubrique Nouvel Œil, qui consiste à vous inviter, vous auditeurs, auditrices, qui aimez l'astronomie ou qui simplement avez envie d'en discuter avec nous, de vous inviter à l'antenne et de venir dans les studios de RDIWA pour nous rencontrer. Voilà pour cette petite introduction. Alors, on va passer au sommaire de l'émission. On va commencer, comme d'habitude, avec le ciel ce soir. Ensuite, on a quelques actus du monde de l'astronomie à vous présenter. Alors ensuite, Axel, tu vas nous parler de traditions et superstitions dans le spatial.
Oui, exactement, puisque le spatial, l'industrie de l'aérospatiale est quand même faite et dirigée par des humains, et les humains, comme dans tous les autres domaines, eh ben, ils ont leurs petits rituels, leurs petites croyances, leurs petites superstitions. Et je voulais parler de ça juste après cette période de fête ou d'épiphanie. On a fait la galette des rois, on s'est dit bonne année, mais pas avant le 1er janvier, parce que sinon ça porte malheur, et puis on trinque, mais en se regardant dans les yeux, enfin voilà, tous ces petits trucs.
Toutes ces petites
et
choses.
Et on va voir ce qui est spécifique aux agences spatiales autour du globe.
Malgré le fait qu'on ait affaire à une bande de scientifiques chevronnés, ça n'empêche pas la superstition parfois. Non. Voilà, et ensuite dans la dernière partie de l'émission, je continuerai un peu ce que j'avais amorcé la dernière fois, une sorte de bestiaire cosmologique où il s'agit en fait de parler un peu des objets exotiques que l'astronomie a proposé, alors à l'observation ou pas. La dernière fois, j'avais pas mal parlé de fin de vie des étoiles, et là, on va continuer avec les trous noirs. Voilà. Alors, on va commencer cette émission avec le ciel ce soir. Alors, le ciel, on reste quand même sur une dynamique où il ne fait pas beau souvent, hein,
oui.
On peut quand même le dire, très nuageux.
Ouais.
Donc c'est pas, ça fait quand même globalement on a une fin d'automne et un début d'hiver peu propice à l'observation.
Oui, je pense qu'en ce moment, il vaut mieux connaître le nom des nuages que des constellations.
C'est ça. c'est vrai que c'est un petit peu frustrant. Enfin, moi, je sais que j'aime beaucoup le ciel d'hiver.
Et, oui.
Et je trouve qu'en plus, en général, il a une qualité, justement, une noirceur, en fait, qui est supérieure à celle du ciel d'été. Mais en ce moment, on ne peut pas trop en profiter. Alors, ça arrive quand même de temps en temps, heureusement. Quand on y arrive, qu'est-ce qu'on voit? Alors, si on commence, par exemple, à l'ouest, juste là où vers là où le soleil s'est couché, on a encore la fin du triangle d'été avec
des nèbres
le cygne.
Ouais.
Le cygne et des nèbres qui va pour se coucher, mais qui se couche assez rapidement. Ensuite, on a... qu'est-ce qu'on a de beau ? Eh bien, on a le carré de Pégase. Le carré de Pégase qui trône quasiment au zénith, en début de nuit.
Au zénith à l'ouest. Au zénith, en ce moment, c'est plutôt le taureau, non ? C'est ça, à peu près. Ouais, les gémeaux, le bélier, tout ça.
On a aussi le dragon qui est assez, qui est assez haut. Bon, alors, en tout cas, on a ce carré de Pégase. Ce carré de Pégase dont on a déjà parlé plusieurs fois, qui est quand même une des constellations les plus remarquables du ciel, hein, les astérismes les plus nets, en fait, les plus clairs, avec ce grand carré relativement vide d'étoiles en son centre, hein, et qui vous permet également aussi, qui se prolonge avec la Andromède et sa grande galaxie. Alors, sous le carré de Pégase, on trouve les poissons. Alors, les poissons, c'est une constellation qui n'est pas super... qui n'est pas très lumineuse.
Non.
Pas extrêmement facile à trouver. Mais que je trouve assez étonnante dans sa forme, qui fait comme une espèce de pic. Il y a deux poissons.
Ouais, ça fait un grand V.
Comme un grand V, ouais, c'est
avec
ça.
Avec les têtes des poissons en haut.
Exactement. Ouais. Donc, c'est un V un peu assez tordu, hein, parce qu'il y en a un qui vient, longer sous Pégase, en fait, quasiment, en venant épouser la direction du bas du carré de Pégase, alors que l'autre monte plutôt verticalement. Et juste au-dessus... Donc, les poissons, c'est le dernier signe du zodiaque. Donc, derrière, c'est le bélier. Là, si vous regardez entre les deux, vous allez trouver un point très brillant. Et là, on est sur Jupiter, qui se trouve juste là. Saturne, elle, se couche en début de nuit. Elle est un peu plus à l'ouest, dans les Verseaux.
Ouais, c'est fini, Saturne, en ce moment.
Ouais, et puis elle n'est pas extrêmement brillante en plus. Donc, c'est pas du tout le meilleur moment pour l'observer.
Je crois qu'à 20h ou 20h30, elle est sous l'horizon.
Elle est couchée, oui.
Il faudra attendre quelques mois pour faire de belles observations de Saturne.
Par contre, Jupiter, c'est vraiment toujours très favorable au niveau de l'observation. Oui. Dès le début de la nuit, elle est là et vous pouvez l'observer. Elle est assez haute en plus. Donc, c'est assez intéressant. Donc, derrière Jupiter, alors on rappelle, sur les planètes, vous avez un éclat un peu plus fixe, hein, que sur les étoiles.
Oui, ça ne scintille pas.
Ça scintille beaucoup moins. Ouais. Donc, ça vous permet des fois de faire la distinction entre, tiens, qu'est-ce que c'est que cette lumière-là, si vous comparez par rapport... si vous regardez Jupiter, vous le voyez par rapport aux autres étoiles, c'est très clair qu'elle scintille beaucoup moins. Voilà. Donc ensuite, si on continue un petit peu vers l'est, on va trouver, ensuite, après le bélier, y a le taureau. Donc le taureau avec les fameuses Pléiades.
Ouais.
Donc très, très belle constellation. Là, le V du taureau avec Aldébaran orangé à la pointe. Les Pléiades...
Petit groupe d'étoiles.
Petit groupe d'étoiles à mât ouvert, mais très, très, très repérable à l'œil nu et très, très beau aux jumelles. Hein. J'ai eu une discussion l'autre soir là, avec une personne qui me disait, mais j'ai jamais observé au télescope et tout. Je lui disais, mais est-ce que tu as des jumelles? Oui, j'en ai, vas-y, parce que rien qu'aux jumelles, déjà, tu peux observer beaucoup de choses. Donc
d'ailleurs, les Pléiades, c'est sûrement mieux aux jumelles qu'au télescope, parce que c'est un petit peu étendu comme objet quand même.
C'est ça.
Au télescope, on rentre vraiment dedans, on va voir les étoiles, on va voir deux, trois... Voilà.
Mais on n'a pas la globalité de l'objet parce qu'il est
trop gros. C'est de voir cet amas entier par rapport au reste du ciel et ça c'est aux jumelles que ça se révèle.
Je suis bien d'accord. Et pareil d'ailleurs pour le double amas de Persée. D'ailleurs on peut continuer sur ces constellations-là parce qu'on a quand même toujours aussi les constellations circumpolaires, celles qu'on voit toute l'année, qui sont autour de l'étoile polaire. Donc la Grande Ourse, la Petite Ourse, Cassiopée, Persée, Céphée, le dragon, voilà, toute cette zone-là, Et alors en ce moment, la Grande Ourse est assez...
Elle est posée droite sur son manche.
C'est ça,
un peu.
Elle ressemble un peu à un point d'interrogation, ouais, à certaines heures de la nuit. Et ouais, elle peut être relativement haute, en réalité, dans le ciel.
Tout à fait.
Voilà, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ben, on a quand même Orion,
ouais,
qui se lève à l'est en début de nuit, et ouais, donc Orion avec la ceinture d'Orion, hein, les trois étoiles là, de la ceinture qui se prolongent pour donner Sirius dans le grand chien.
Là, ouais, ça, je pense que c'est la constellation facile à reconnaître du moment.
Oui,
c'est bien Orion. Ouais.
Oui, parce que Pégase est un peu moins évidente au premier abord, ouais, de bien repérer. Parce que vous allez dire des carrés, il y en a partout. Bah, oui et non. mais c'est vrai qu'Orion, bon, c'est... Voilà, Orion, Sirius, et là aussi, il y a des belles observations à faire. Et puis un peu plus tard, le Lion. Le Lion, quand même un classique du ciel d'hiver. Alors, on est encore au début, mais le lion est là aussi. Quelque chose à rajouter sur ce tour de ciel? Ça fait déjà un bon petit tour.
Ben ouais, je crois que tu voulais peut-être nous parler de Jupiter que tu as vu mentionné dans...
Alors ça, j'en parlerai. Oui,
je peux faire le lien avec ça.
Juste mentionner Vénus jusqu'à récemment était visible le matin et qui là est passée de l'autre côté du Soleil et donc va être visible fugacement le soir, mais très bas sur l'horizon. Donc pas forcément non plus... Là, dans le mois qui s'est écoulé, c'était assez beau, Vénus. Le matin, elle était vraiment, vraiment très brillante et assez haut dans le ciel.
Non, moi, je, sur ma carte du ciel, je vois Vénus plutôt au petit matin encore, avec Mercure aussi.
Mercure, ouais.
Qui se lève juste après elle.
Mais elle est en train... La Vénus, elle est en train de passer de l'autre côté.
Alors, je ne dois pas être un jour. Bon.
En tout cas, effectivement, pour Jupiter...
Ouais, qu'est-ce qui se passe avec Jupiter?
Il y a eu ce qu'on appelle le mouvement rétrograde de Jupiter.
Ouais, c'est grave, ça.
Alors, c'est grave, ça dépend. ça dépend. En réalité, pas du tout. Donc, ce qu'on appelle mouvement rétrograde, en fait, c'est qu'on va avoir l'impression que par rapport au fond du ciel, c'est-à-dire par rapport au reste des étoiles, la planète va se déplacer en sens inverse de d'habitude.
Donc on parle de sur plusieurs nuits.
Sur plusieurs,
on
ne oui,
peut
oui.
pas le voir en regardant
non,
comme
non,
ça.
Non, 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 effectivement. C'est un déplacement sur plusieurs. Sur une semaine, sur deux semaines. Voilà. Voilà,
on prend un repère avec une étoile à côté.
Plusieurs jours.
Et c'est là qu'on voit son déplacement.
Donc on rappelle, hein, c'est l'origine du mot planète. Planète, ça vient du grec et ça veut dire astre errant. Et parce que les Grecs avaient repéré que ces astres-là se baladaient sur le fond du ciel, c'est-à-dire se baladaient par rapport aux étoiles qui, elles, même si elles tournent toujours ensemble, les unes par rapport aux autres. Les formes restent les mêmes. Donc, alors que les planètes, non. Mais cependant, on sait maintenant, et puis d'ailleurs les Grecs le savaient aussi, mais les planètes tournent toutes autour du Soleil dans le même sens. Donc quand on en voit une qui d'un coup se met en apparence à partir dans l'autre, se déplacer dans l'autre sens, alors ça peut intriguer. En réalité, c'est juste un effet de projection géométrique par rapport aux positions des planètes. Alors à la radio, je pense que c'est franchement inexplicable, je ne vais même pas essayer, mais l'idée c'est quand même un petit peu, imaginez que si vous faites une ligne par exemple entre le Soleil et Jupiter, et la Terre dans son orbite commence à dépasser cet endroit-là, ben vous allez avoir l'impression en fait que Jupiter recule sur le fond du ciel. C'est vraiment des effets de projection en fait par rapport aux vitesses relatives des deux planètes et de perspectives. On a la même chose pour Mars, le mouvement rétrograde de Mars aussi qui est bien connu et documenté depuis des siècles et des siècles. Donc voilà, je voulais mentionner qu'on est sorti en fait à la fin de l'année 2023, on est sorti du mouvement rétrograde de Jupiter qui avait été entamé, il me semble, à partir du mois de septembre, enfin de la fin de l'été. Et pendant 4 mois, voilà. Donc là, c'est terminé. Jupiter se remet à se déplacer sur le fond du ciel dans le même sens. Mais ça a donné lieu, et j'ai pu croiser ça, voilà, à plein d'articles, on va dire, là, à caractère plutôt astrologique. Oui. qui expliquait que, bon, bah, à partir du moment où Jupiter, qui est quand même la planète reine du système solaire, se mettait à se balader en sens inverse, alors ça allait être un peu la misère pour tout le monde. Grosso modo, que ça avait une influence plutôt, plutôt néfaste, plutôt négative sur, les, sur nous. Alors, je ne trancherai pas, mais je voulais le mentionner parce que, voilà, y a deux choses différentes. Il y a une réalité physique qui est que la planète, de toute façon, elle n'a absolument pas changé son déplacement. Elle est toujours sur son orbite, comme d'habitude. Il y a ensuite une réalité terrestre qui est qu'en projection, on a l'impression que cette planète a reculé. Et puis ensuite, il y a éventuellement ou pas une influence, selon ses croyances, en astrologie. Et s'il y en a une, en tout cas, elle est plutôt néfaste. Voilà. Très bien. Donc, c'était juste pour mentionner ça, au cas où vous seriez tombé sur des articles qui en parlent, juste pour faire le distinguo quand même entre la partie physique des choses et les interprétations que chacun veut bien en donner. Ouais. Alors ça, c'était pour on va dire, une sorte de première actualité du monde de l'astronomie. Y en a une deuxième qui n'est pas vraiment une actu, mais que j'avais quand même envie de mentionner. Alors, parce que peut-être vous allez être amené à tomber dessus. L'autre jour, ma nièce est rentrée d'aller manger dans un restaurant de fast-food d'une marque bien connue qui n'a pas besoin de moi pour faire de la pub. Et donc, avec son petit menu, elle avait un livre, un petit livre, donc, qui s'appelle « Le pic du midi » d'Osso. Bon. Et donc, c'est l'histoire de quatre enfants qui décident de passer une nuit à la belle étoile. Et voilà. Donc, ils sont là, en train de camper. Et voilà. Et donc, il y en a un de ces enfants qui, apparemment, est passionné d'astronomie. Donc, il explique aux autres. Et il dit, c'est la nouvelle lune. On ne la voit donc pas. Et ça, sa lumière ne gêne pas l'observation des étoiles. C'est parfait. Donc, ça, d'accord. Jusque-là, ouais, tout va bien. Et là, son ami lui répond, mais je n'en vois qu'une pour le moment. Donc, d'étoiles. Et lui, qu'est-ce qu'il répond ? C'est Vénus, lui apprend William. C'est la première étoile qui apparaît après le coucher du soleil. Les autres seront bientôt visibles. Réponse, où as-tu... Alors, question, où as-tu appris tout ça ? Réponse, dans les livres, j'en ai tout un tas. Et là, stupeur et, alors, et consternation.
Non, oui, plus ou moins, je pense que je sais ce que tu vas dire, c'est que Vénus n'est pas une étoile, mais une planète.
Alors, et d'une, Vénus n'est pas une étoile, mais une planète, c'est quand même fondamentalement différent.
Ah oui, oui.
Déjà.
Ah, ça, c'est sûr.
Et deuxio, Vénus n'est pas du tout la première étoile qui apparaît couchée du soleil.
Ça dépend des périodes.
Ça dépend des périodes, voilà, exactement, alors, comme on l'a dit.
Au moment où ils ont écrit le livre, peut-être
non,
que
mais
oui.
Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, on sait très bien pourquoi on dit l'étoile du berger. Okay, ce qu'on a déjà mentionné, on peut le répéter. Vénus, c'est l'étoile du berger. Donc, je répète, c'est une planète, ce n'est pas une étoile. On rappelle qu'une étoile produit de la lumière, c'est une énorme boule de gaz, là où une planète ne fait que réfléchir la lumière de son étoile et la planète tourne autour de l'étoile. Donc, on a quand même affaire à deux réalités physiques qui n'ont rien à voir.
Ah oui,
pour commencer. Ensuite, de dire Vénus, donc considérons même si on appelle ça une étoile, si vous voulez, et ben non, c'est pas du tout la première qui apparaît au coucher du soleil. Là, vous n'avez qu'à sortir ce soir et puis vous verrez bien. Ah oui. Bon, il y a des nuages, mais voilà, et ben on voit pas Vénus. Et de la même façon.
La première en ce moment, c'est Jupiter, je pense.
C'est bien possible, qui est aussi une planète.
Voilà.
Non, mais c'était juste pour dire que cette histoire d'étoile du berger. Alors, il se trouve que Vénus étant beaucoup plus près du soleil que nous. En fait, dans le ciel, Vénus n'est jamais bien loin du Soleil. Par effet de projection, elle ne peut pas être dans une position opposée au Soleil, par exemple. Ça n'arrivera jamais.
Être à 2 heures du matin au-dessus de nous.
Non, ça, c'est pas, ça ne peut pas arriver. Donc, de fait, on observe effectivement Vénus qu'au coucher du Soleil ou au lever du Soleil.
Ou pas du tout.
Ou pas du tout, si elle est derrière.
Si elle est derrière ou devant, trop proche, perdue dans la lumière du Soleil. Ouais.
Tout à fait. Donc, dire... La première étoile qui apparaît le soir, c'est Vénus. C'est vraiment n'importe quoi. Et je trouve ça hallucinant que... Alors, venant de ce restaurant, ça ne m'étonne absolument pas, parce que de toute façon, ils ne sont pas réputés pour leur qualité scientifique. Ni gustative d'ailleurs, mais ce n'est pas grave. Par contre, ce qui m'a un peu surpris, c'est que c'est quand même édité par Hachette Jeunesse.
Ah oui.
Bon, je trouve ça vraiment dommage, en fait, parce que ce bouquin, il va être lu par plein de gamins. Et ben voilà, dès qu'on parle d'astro, c'est rempli de bêtises. Bon, bref.
Et en ce moment, ils vont dire ah, regarde, c'est Vénus là. Mais si, regarde, c'est la première. Et en fait, non, c'est Jupiter.
C'est ça, par exemple. Ouais, ouais. Donc, c'est quand même induire les gens en erreur, en fait. Enfin, colporter
Des, ouais.
des erreurs,
ouais,
tout simplement.
Ça, des semi-vérités.
Voilà, donc ça m'a un petit peu énervé, alors j'ai envie de le mentionner quand même. Bon, et voilà, et puis on laisse ça pour l'instant. Et on va parler donc d'une vraie actualité cette fois du monde de l'astronomie, qui est l'alunissage d'une sonde japonaise.
Ah oui, sur le... Ouais.
Donc la JAXA, qui est l'agence spatiale japonaise, a réussi, donc là, il y a quelques jours, à poser son atterrisseur qui s'appelle SLIM, Smart Lander for Investigating Moon. Yes. Donc ils ont réussi, et apparemment ils étaient aussi assez contents parce qu'ils ont réussi avec une grande précision à se poser là où ils voulaient. Donc ça aussi, c'était aussi un grand succès parce que c'est vrai que c'est, en réalité, ça a un vrai impact. C'est pas facile de se déplacer que ce soit sur la Lune, encore moins sur Mars. Mmh. Donc c'est vrai que quand ils choisissent un site d'atterrissage, ils aiment bien essayer d'y arriver quand même le plus proche possible pour pas après avoir à galérer avec les rovers ou quoi que ce soit pour aller jusqu'aux zones qui les intéressent. Quoi. Mmh. Donc là, ils étaient super contents d'eux. Par contre, ils ont un problème technique qui est que les panneaux solaires ne fonctionnent pas. Mmh. Donc, je ne sais pas ce que ça implique par rapport au fonctionnement de la sonde. Bon, il y a des piles embarquées, hein, des batteries embarquées qui permettent à la sonde de fonctionner. Mais j'imagine que s'il y a des panneaux solaires, c'est qu'ils servent à quelque chose. Ouais. Et là, ils ne marchent pas, donc je ne sais pas trop.
On peut imaginer une espèce de vie réduite pour la mission, du coup.
Peut-être ouais. Voilà. Par contre, alors, ce qui est intéressant, et là, dont j'avais envie de parler rapidement, c'est qu'ils ont, il y avait deux petits rovers. Deux petits véhicules d'exploration lunaire qui étaient embarqués sur cet atterrisseur, qui s'appellent LEV1 et 2, et alors qui sont quand même assez étonnants. Une technologie. Donc le premier véhicule, lui, il se déplace en sautant. Donc il fait des bonds, en fait. Alors c'est des petites machines.
Oui,
exactement,
ouais.
Comme une grenouille. Ouais. Alors c'est des petits rovers d'exploration. Alors oui. Bon, on dit rover, mais en réalité le mot est pas bon parce qu'ils ont pas vraiment de roues.
Ouais,
bon, mais ça s'appelle quand même c'est un véhicule d'exploration lunaire, voilà. Mais c'est petit, on est sur des trucs qui font une dizaine de 10-20 cm. Voilà, c'est des petits objets. Donc celui-là, il saute. Alors là, moi, à ma connaissance, je n'avais jamais entendu parler de véhicule d'exploration
sautant.
Donc sautille.
Ouais.
Bon, donc voilà.
Je crois que c'est les premiers. Ouais.
Et le deuxième, qui a un petit surnom, qui s'appelle Soraku. Là, on a affaire à une boule d'une dizaine de centimètres, un peu une espèce de petite balle de tennis. Et qui en fait va s'ouvrir en deux demi-sphères, et chacune des sphères va servir de roue. Ah oui. Mais ces roues sont articulées aussi le long de l'axe en fait. Elles peuvent pivoter sur leur axe et pour donner une énorme mobilité en fait et une énorme adaptabilité au terrain à cette petite boule de 10 cm qui va se promener sur la Lune pour l'explorer. Et j'étais assez intrigué. Bah, les Japonais pour le coup, pour la robotique ou choses comme ça, ils sont quand même.
Ça me fait penser à ce petit, au petit frère de R2-D2 dans les nouveaux épisodes de Star Wars. Il y en a un petit.
BB-8.
Voilà,
ouais.
BB-8.
Ouais. C'est ça. Lui, il roule. Lui, c'est une seule boule. Oui. BB-8, c'est une seule boule. Ouais. Oui. Là, le truc vraiment s'ouvre en deux.
Oui.
Et se fait chacune des demi-sphères qui fait une boule. Donc voilà, on avait aussi, je me souviens, là, c'était pour Perseverance, non, là, où il y avait une sorte d'hélicoptère, là, le petit.
Oui, c'est ça, sur la Lune, sur le Mars.
Sur Mars.
Les donc, Américains ont un petit.
Un jet de métier, ça
s'appelle.
Un jet de métier, voilà.
Un petit drone, en gros. Quoi.
Donc on va aussi vers ça, vers une diversification et des modes de propulsion et ils testent des choses pour voir. Parce que c'est vrai que nous, on a cette espèce de logique terrestre de dire que la roue, tout doit rouler. Mais au fond, on peut aussi sautiller. ils explorent des choses. Bon, on verra bien où ça mène. Mais en tout cas, j'avais trouvé ça sympa. J'avais envie de partager ça avec vous.
Soraku, je crois que c'est pour question du ciel en japonais, en transcrivant un peu.
Ok.
Je crois que Sora, j'allais dire que c'est la Lune, mais c'est peut-être plutôt le ciel. Et Q, en gros, c'est question en anglais. Enfin, je pense que ça doit être un truc comme ça qu'ils ont dû chercher.
Mmh. Ok. Alors voilà pour ces actualités.
Merci.
On va passer à la suite. Et Axel, je te laisse la parole.
Oui, alors... Comme je disais en introduction de cette émission, moi j'avais envie de parler de quelques superstitions, traditions qui règnent dans les agences spatiales, chez les Américains, à la NASA, mais aussi chez les Russes. Alors ça, peut-être que je le garderai pour la prochaine fois, parce que j'en ai pas mal à dire. Et puis aussi ailleurs, même si j'ai trouvé moins d'informations sur les autres. Mais commençons par la NASA. Si on le fait un petit peu en ordre, par ordre chronologique, un petit peu des différents rituels qui vont arriver, on commence avec les astronautes qui font un barbecue dans une maison, je pense en Floride, pas très loin de Cap Canaveral, la base de lancement de la NASA. Les familles des astronautes et les astronautes sont invités à venir se voir un peu une dernière fois, à passer un bon moment tous ensemble dans une maison au bord de l'océan Atlantique. Et lors de ce barbecue, je crois que c'est exactement 36 heures avant le lancement, ils vont s'ouvrir une petite bouteille et signer, chacun des astronautes va signer la bouteille et ensuite elles sont exposées. Donc voilà, dans cette maison, il y a des bouteilles signées de tous les astronautes que la NASA a pu envoyer dans l'histoire. C'est surtout des bouteilles de vin, quelques bouteilles de bière, et il y a une bouteille de cognac russe. avec souvent les stickers des missions aussi, avec les logos de chaque mission qui sont apposés dessus. Pendant qu'ils se détendent tranquillement là-bas, les techniciens, eux, commencent à transférer le lanceur du bâtiment d'assemblage jusqu'au pas de tir. Ça se fait avec des sortes de gros, de gros chenillards. Enfin, c'est pas des chenilles, justement, c'est des roues, ça va avoir une importance. Une grosse plateforme avec des énormes roues qui amène le lanceur au bon endroit, sur le pas de tir, donc. Et si ça se passe bien, les chefs d'équipe vont offrir des donuts et des baguettes aux équipes de techniciens, sachant que le rond est là pour rappeler les roues, justement, de cet engin. Donc voilà, les astronautes ont bien bu, ont bien mangé, ils ont fait leurs adieux à leur famille.
Leurs adieux.
c'est pas encore leurs adieux, ils ont un dernier moment pour se dire au revoir avant de partir. Mais bon, bref, le jour du départ arrive, ils se réveillent. S'ils veulent un petit déj, il y a de grandes chances qu'on leur propose de manger des œufs brouillés et un steak. Pourquoi ? Alors, il y a deux raisons. Je vais commencer par la plus rationnelle. C'est parce que c'est un petit déjeuner qui amène assez peu de résidus organiques. Voilà, t'as moins envie avec ça d'aller aux toilettes. Après, du coup, on doit t'équiper, qu'après que tu montes dans la fusée, qu'il faut des heures pour que ça parte et tout. Voilà,
c'est régime protéiné quand même. Hein.
C'est protéiné, mais voilà, c'est pas très diurétique ou quoi, donc c'est parfait. Mais c'est surtout parce que Alan Shepard, le premier Américain dans l'espace en 61, c'est ce qu'il a demandé au petit déjeuner. Son vol a été un succès et du coup, voilà, on garde son petit déj un peu de manière rituelle. Après ça, on va présenter un gâteau à l'équipage, un gâteau avec dessus un glaçage représentant le logo, une fois de plus, de la mission, à chaque mission son logo. Et là, il est d'usage de ne pas le manger. En tout cas, l'équipage ne le mange pas, sûrement quelqu'un derrière va le manger. Et ça, personne ne sait vraiment d'où ça vient, ni pourquoi on le mange pas. Est-ce que c'est que la première fois que ça s'est fait, le mec avait pas trop faim, il dit non. Et du coup, on se dit, bon, c'est bon, on reste comme ça, on ne mange pas.
Il était vraiment pas bon.
Ouais, voilà, c'est... bon, en tout cas, voilà, il y a ce gâteau. Ensuite, on va les amener dans une salle de préparation où ils vont enfiler leur combinaison. Et dans cette salle, les sièges, ils ont des sortes de fauteuils inclinables électriques, voilà, avec le repose-pied, dossier inclinable pour se mettre bien, parce qu'il reste une petite heure là-dedans. Et ben, ces sièges n'ont jamais changé depuis le début de la NASA. Alors, ils ont été retapés et tout, quand même. Ils avouent qu'ils ont refait un peu les mousses ou les cuirs. Ou petit à petit, bon, je vous renvoie à l'histoire du bateau de Thésée, j'en parlerai plus tard. Mais est-ce que c'est toujours les mêmes sièges ? En tout cas, voilà, j'ai vu, j'ai pas noté son nom, mais j'ai un astronaute qui s'assoit dans un de ses fauteuils, qui commence à être préparé, puis son assistant lui dit « Ah, t'es dans le même fauteuil que Neil Armstrong, par exemple. » Et ils disent « Ah bon, ah ouais, c'est vrai que ça doit faire un petit quelque chose, pourquoi pas ?» Alors, ils disent que ça n'a jamais changé, mais comme on le sait, la NASA n'a pas envoyé d'astronautes dans l'espace à partir de 2011. suite aux événements tragiques des navettes spatiales. Et puis jusqu'en 2020, où c'est SpaceX maintenant qui envoie depuis là-bas des humains. Donc pendant ce moment-là, il y a eu des travaux. Et donc, est-ce que les sièges sont encore là? Je n'ai pas trouvé d'infos depuis 2020 si ça a changé. Et puis, il y a une autre chose, une question qu'il ne faut pas trop poser, pas trop fort. C'est, d'accord, les sièges n'ont jamais changé depuis les premières missions, mais les premières missions, ils étaient 3. Et puis après, vous avez envoyé des navettes où ils étaient 9 ou 10 dedans. Donc, bon, il doit y avoir... Mais ce n'est pas grave. Bah, alors, on ne pose pas la question. Continuons un petit peu dans cette journée. Ils sont toujours dans cette pièce en train de se préparer. Quelle est la dernière préparation qu'ils doivent faire? C'est quelque chose de pas du tout technique. C'est que l'équipe doit jouer aux cartes. C'est un jeu qui ressemble un peu au blackjack où ils peuvent choisir, je pense, peut-être du poker des fois. Mais en tout cas, ils vont jouer aux cartes jusqu'à ce que le commandant de bord perde une main. Alors pourquoi ça? Eh ben, on ne sait pas trop non plus, mais peut-être que ça serait parce qu'une fois qu'il a eu une mauvaise main... Il a usé de toute sa malchance un peu. Et derrière, il va avoir plus que de la chance, donc il va pouvoir amener son équipage à bon port. Donc voilà, ils vont jouer aux cartes jusqu'à ce que le commandant perde. Alors je sais pas combien de temps ça a pu durer.
C'est un sacré paquet de petits trucs, de petits rituels.
Mais
de
c'est rien par rapport à la Russie.
Ah ouais.
On verra ça après.
Après, c'est sûr qu'ils jouent, ils jouent leur vie quelque part. Oui. On le sait, ils le savent. Donc.
Oui, on a Jean-Yves Le Gall, c'est un Français lui du CNES. Pas un astronaute, mais un directeur de mission qui dit que la fusée, c'est la machine créée par l'homme où la frontière entre succès et échec est la plus faible, quoi, la plus ténue. Le rapport entre échec et succès. Toutes les autres machines qu'on utilise au quotidien, en général, ça marche. Mais là, il y a toujours un bon. Donc voilà, dans le doute, on fait ce qu'il faut. Où en est-on dans cette journée? Donc c'est bon, le commandant a perdu sa partie de carte. Pendant ce temps, on a le préposé aux cacahuètes qui commence à distribuer des cacahuètes un peu partout dans la salle de commande. Il va mettre des petits pots avec des cacahuètes, petits pots avec encore une fois les stickers à l'effigie de la mission. Alors ça peut être aussi pour les missions non sans équipage, pour envoyer des satellites ou quoi. Et ça nous vient d'où, ce petit rituel des cacahuètes? Ça vient des années 60, peut-être même un peu avant, je crois, quand le JPL, le Jet Propulsion Laboratory, une des branches de la NASA, venait de signer le contrat avec la NASA, avec le gouvernement, qui voilà, y rentrait dans la course. Et il devait préparer les missions Apollo, c'était avant les missions Apollo, mais on essayait d'emmagasiner le plus de connaissances possibles sur la Lune. Et donc eux, leur mission, c'était les missions Rangers. Ils devaient envoyer des impacteurs sur la Lune, des sondes qui s'écrasent sur la Lune, c'était prévu, et elles récupèrent plein d'informations quand même jusqu'au moment où elles explosent. Et ces missions, ils en ont raté 6 d'affilée, de la première à la 6e, ils les ont toutes ratées. À la 7e, la NASA a dit « Bon, vous êtes bien gentils, mais si vous continuez, on va appeler quelqu'un d'autre, quoi, parce que vous nous coûtez cher, et puis voilà, on a un agenda à suivre. » Et pour la 7e mission, le chef de mission a amené des cacahuètes à ses techniciens. Ils étaient tous là à mâchonner leurs cacahuètes pendant que la mission partait. Et ça a été le premier succès des missions Rangers. Donc depuis, dans le doute, on a des cacahuètes. Encore une fois, ils savent tous très bien que ce n'est pas grâce aux cacahuètes que ça va réussir. Mais quand tu vois le prix d'une sonde par rapport au prix d'un paquet de cacahuètes, il vaut mieux avoir des cacahuètes.
Ouais, c'est sûr.
Et puis bon, c'est vrai que... cacahuète ou pas, un petit quelque chose qui te déstresse, qui t'occupe les mains ou quoi, ça peut quand même jouer, on pourrait se dire dans la réussite des opérations. Donc revenons dans le cas où c'est non pas une sonde mais bien des astronautes qui sont destinés à décoller. Ils s'avancent, ils arrivent près de leur lanceur. Ils doivent en faire le tour dans un sens particulier, je sais plus si c'est dans le sens horaire ou pas, mais voilà, ils ont un sens où il ne faut pas aller. Ils arrivent aux ascenseurs. Et là, il y a des gros tuyaux qui maintiennent la température des réservoirs parce qu'il faut que les ergols soient à telle température pour des questions de densité, tout ça. Des températures très froides. Ce qui fait qu'il y a des tuyaux d'azote qui sont givrés à l'extérieur. Et là, il est de coutume pour les astronautes de signer leurs initiales sur le givre du tuyau. Voilà. Les Russes ont un petit truc comme ça aussi, on le verra. On a presque fini, il s'installe, il décolle enfin. Plus de rituel jusque-là, le décollage a lieu. Et là, si tout se passe bien, qu'ils arrivent en orbite, eh bien c'est évidemment la fête au sol, cacahuète pour tout le monde. Et il y a une petite tradition qui consiste à couper la cravate des chefs, des directeurs de vol, des directeurs de test, des ingénieurs en chef. Voilà. Je crois que c'est surtout pour leur première fois, en tout cas. C'est une première réussite, on va leur couper la cravate en deux. Ça, c'est un truc qui vient de l'aviation, où ils se coupaient les écharpes ou les t-shirts. Et ça viendrait du tout début de l'aviation, où les instructeurs de vol, enfin les avions de formation, ils étaient deux, le formé devant et le professeur derrière, en tandem, comme ça. Et comme c'est difficile de communiquer avec tout le bruit qu'il y avait, il n'y avait pas forcément de radio dans l'avion même. Et donc, il attrapait le t-shirt pour lui dire « tourne à droite » en tirant à droite ou « tourne à gauche » en tirant à gauche. Et une fois qu'on avait son diplôme, on n'avait plus besoin de professeur derrière et donc on se coupait le t-shirt pour dire « j'ai plus besoin de… » ou le foulard, pour dire « j'ai plus besoin qu'on me tire dessus ». Ça, c'est pas spécifique au spatial, le fait de couper des écharpes, ça se fait chez les concessionnaires automobiles, par exemple, ou dans l'immobilier aussi, où tu vends ta première maison, on te coupe ta cravate.
Ah ouais,
on a pu voir ça dans des films. Je sais pas si on le voit pas dans Le Loup de Wall Street, peut-être. Ah bon. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils font ensuite, tous ces techniciens, avec leur cravate coupée, pour continuer...
Et leur cacahuète plein de
bide. Et leur cacahuète plein de bide. Et pour fêter ça, on continue sur de la bouffe, parce que quand même, ils sont humains, et la bouffe, ça reste important pour tout le monde.
Il y a le gros gâteau, là, qu'ils n'ont pas mangé.
Il y a ce gâteau, on ne veut pas savoir où il est passé.
On veut pas savoir.
Mais une des dernières choses, c'est qu'ils vont fêter ça en mangeant du pain de maïs, cornbread en anglais, et un sort de ragoût de haricots blancs, peut-être avec des saucisses, quelque chose qui pourrait peut-être se rapprocher de notre cassoulet national. Et ça vient d'un des chefs qui avait ramené ça pour une mission, qui savait que ça allait être long entre les temps d'attente dans les années 60-70. Donc il avait ramené ça en se disant, si on a qu'on faim, comme ça, voilà. Il a fait ça, c'était sa recette à lui, quoi. Et elle est disponible sur le site de la NASA aujourd'hui. Si tu vas sur nasa.gov.us, hein, t'as la recette officielle des haricots blancs, du ragoût de haricots blancs.
De la NASA.
De la NASA. De ce mec. Je n'ai pas noté le nom, c'est pas grave. Voilà un petit peu pour tous ces petits rituels qui ont lieu à la NASA. Je vais finir avec deux autres qui sont un peu plus personnels, on va dire. On avait par exemple, j'ai parlé vite fait des navettes spatiales, et on sait qu'ils ont eu un sort tragique pour deux d'entre elles. La première qui a foiré, c'était en 86, c'est ça, non, Columbia. Suite à ça, on a une famille états-unienne qui s'est mise à envoyer un bouquet de fleurs, de roses, pour chaque nouveau lancement de navette. Ils envoyaient un bouquet avec une rose blanche en mémoire de ceux qui étaient morts et une rose rouge pour chaque astronaute qui était dans la mission à partir. Là. C'était la famille Shelton. La NASA a fini par les retrouver pour les remercier et pour montrer que c'était important pour eux, qu'ils appréciaient beaucoup le geste. Ils les ont invités à différents lancements, à être avec eux dans les quartiers généraux. Et en tout cas, les bouquets étaient toujours exposés sur une console de bord, choses comme ça. C'était... Et la petite dernière anecdote perso, je vais parler de Gene Kranz, qui était un contrôleur de vol sur les missions Apollo. Oui, c'est ça. Il avait pour coutume, en tout cas sa femme, lui faisait un gilet sur mesure, un gilet neuf à chaque fois, elle en fabriquait un, pour chaque nouvelle mission. Et ça, on peut le voir dans le film avec Tom Hanks, le film Apollo 13. Il avait un gilet blanc à ce moment-là. Et il a été décisif dans le rattrapage, j'allais dire le succès, mais non, dans le rattrapage de l'échec de cette mission Apollo 13. Et ce gilet blanc, il est maintenant exposé dans un musée. Et on le voit dans le film, le personnage qui joue, Gene Kranz, il a un gilet blanc. Voilà un petit peu les petites traditions à la NASA. Pour rester chez les États-Uniens, je peux citer Elon Musk. Notre grand ami Elon Musk de SpaceX, qui semble avoir une petite tradition. On ne sait pas s'il la tient encore, mais en tout cas, il y a quelques temps, il avait tweeté, et ce n'était pas encore à lui, Twitter, à l'époque, mais il avait tweeté qu'il sortait du Space Mountain, une attraction phare de Disneyland. Parce que lors du premier vol des Falcon 9 qui a bien marché, bah, il était à Disneyland avant, il avait fait Space Mountain, et puis derrière, la Falcon 9 a réussi, et du coup, il semblait aller faire un tour de Space Mountain avant chaque lancement. Voilà, est-ce qu'il le fait encore? On ne sait pas. Et on s'en fout. Non, je n'ai pas dit ça. Non. Tu parlais tout à l'heure des Japonais. J'ai pas trouvé grand-chose sur la JAXA. Enfin, en fait, j'ai trouvé qu'une chose. Et là, ça tient peut-être plus de la religion que de la superstition. Mais c'est qu'on a beaucoup de techniciens japonais de la JAXA qui vont faire une petite prière dans un sanctuaire Shinto avant les lancements. Voilà, demander les bonnes faveurs de l'univers. On a un peu la même chose chez les Indiens de l'ISRO. L'ISRO, ils vont prier au temple du Seigneur Balaji avec une miniature de la fusée ou de la sonde ou du rover qu'ils veulent envoyer. Ils vont là-bas, ils le laissent en offrande et ils vont prier à ce temple. Sinon, ils sont connus pour casser des noix de coco. Je ne sais pas s'ils les mangent après ou pas, mais en tout cas, c'est une tradition de casser des noix de coco pour porter chance. Et ils ne font jamais de lancement le mardi. Parce que c'est comme notre vendredi 13, le mardi c'est pas un bon jour, porte pas chance, donc pas de lancement le mardi à l'ISRO. Et puis je vais finir avec l'ESA, où j'ai pas grand chose non plus. Il faut savoir aussi que dans toutes ces agences, ESA, ISRO, JAXA, on n'envoie pas de gens, donc c'est peut-être moins sujet à créer des rituels comme ça.
Donc on appelle ESA, c'est l'Agence spatiale européenne.
Oui, merci. Et donc chez nos amis européens, sur la base de lancement de Kourou en Guyane française, on a beaucoup de superstitions, mais personnelles en fait. Ce que chacun va faire pour soi, il n'y a pas de choses un peu systématiques comme on peut voir à la NASA ou chez Roscosmos, chez les Russes. Mais on a par exemple un journaliste du journal Le Monde qui était présent pour couvrir des lancements là-bas, à Kourou. Et les deux fois où il était là, les deux fois, le lancement a foiré. Ah, et du coup, on lui a dit de plus revenir. Voilà, il est blacklisté là-bas. Bah, ouais. Dans le doute, voilà.
Dans le doute, il est remercié.
Ouais, c'est ça.
Il devait être quand même bien... Ça va faire plaisir.
Quand même. Ouais,
c'est ça, ouais. Et toi, tu portes la poisse, en fait. Ouais, ok.
On a un technicien qui était connu pour porter toujours le même polo pendant les lancements. C'était à l'époque des fusées de diamants. Toute la série des pierres précieuses qu'ils avaient, l'ESA. Voilà. Donc il y en a un qui avait toujours le même polo, il y en avait un autre qui avait toujours le même jean, qui commençait à être complètement dépareillé avant que ça soit à la mode, les jeans dépareillés. On a le président du CNES, je ne sais pas si c'est l'actuel, mais j'en ai parlé juste à l'instant, Jean-Yves Le Gall, qui lui a l'habitude de faire le tour du pas de tir en écoutant toujours la même chanson, Sympathy for the Devil des Rolling Stones. Voilà. Et il le dit en interview, il dit je suis très rationnel, et voilà, mais je préfère
mais
faire quand ça
même.
Quand même.
Je suis rationnel, mais.
Et puis il y a une fois où je ne l'ai pas fait et ça a foiré la mission.
Voilà. Alors, donc c'est bien la preuve.
Voilà.
Hey.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si lance une fusée dans laquelle il y a plusieurs satellites qui doivent être déployés, on n'ouvre pas le champagne tant que le dernier satellite n'est pas sorti, n'a pas été déployé, ce qui peut sembler logique. Et puis sur le volet un peu plus religieux, on a aussi à Kourou des techniciens qui s'arrêtent à une église. Pourquoi j'ai pas noté son nom? Apparemment c'est une église assez connue là-bas. À une église pour mettre des cierges avant le lancement des fusées. Voilà un petit peu, je garde le plus gros pour la prochaine fois, où je vous parlerai des traditions chez les Russes de Roscosmos. Et puis j'aurai aussi un petit volet sur le nombre 13, qui ça c'est partagé un peu dans le monde entier.
Poste débat, ouais. Voilà. Bah, merci Axel.
Mais je vous en prie.
On va faire une petite pause musicale. Cette semaine, on va écouter un morceau de France Gall qui s'appelle Musique.
Alors, pour mettre l'ambiance.
Pour mettre l'ambiance, un morceau voilà, pour démarrer l'année. Juste, j'attire votre attention pour ceux que ça intéresse sur le bassiste qui joue dans ce morceau, puisqu'il s'agit de Yannick Top, le bassiste originel de Magma. Donc voilà, qui a aussi fait une carrière avec, en musicien studio. Je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à écouter un petit peu ce qu'il est capable de faire, même sur de la variété. On se retrouve après. L'étoile polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDIWA. Merci France Gall pour ce petit message d'amour et de paix en ce début d'année. Alors, on va continuer nos histoires astronomiques avec les trous noirs. Donc c'est la suite un peu de ce que j'avais commencé la dernière fois, bestiaire cosmologique. On avait parlé donc dans l'épisode 55 des étoiles et de la fin de vie des étoiles et de ce qui pouvait se passer lorsque les étoiles mouraient. Donc pour faire un bref rappel, on rappelle qu'une étoile, c'est une énorme boule de gaz, principalement de l'hydrogène. Pas que, mais principalement. Et que cet hydrogène, au centre de l'étoile, par des réactions de fusion thermonucléaire, donc fusion, pas fission, fusion, c'est-à-dire que les noyaux, en fait, vont fusionner, deux petits noyaux vont former un plus gros noyau. Et ça libère de l'énergie. Par opposition, la fission nucléaire, c'est ce qui se passe dans les centrales atomiques, où là, on prend des gros noyaux d'uranium qu'on casse, et ça aussi, ça libère de l'énergie. Donc, c'est deux façons différentes d'en produire. Mais voilà, la source d'énergie des étoiles, c'est ça. Et donc, cette source d'énergie, elle a une fin, c'est quand l'hydrogène est épuisé.
C'est ça.
Alors, on l'avait évoqué, il y a différentes phases. Pour des étoiles qui sont relativement massives, on peut ensuite faire des fusions du carbone, de l'azote, de l'oxygène, etc. Mais de toute façon, tout ça a quand même une limite et il y a un moment où l'étoile va commencer à s'effondrer sur elle-même puisqu'il n'y aura plus d'énergie qui sera rayonnée depuis son cœur et qui pourra s'opposer à la gravitation. Donc on avait évoqué tout ça et on avait dit que voilà, en fonction en fait de la masse de l'étoile, le destin de cette étoile sera différent et qu'en gros plus une étoile était massive, plus elle allait avoir une fin violente et plus aussi sa vie sera courte. Donc on a les étoiles géantes qui vont vivre 100 000 ans, quelques centaines de milliers d'années, par opposition par exemple au Soleil qui lui va vivre une dizaine de 2 milliards d'années. Le Soleil étant une étoile moyenne. Hein, voilà. Donc le Soleil, lui, va finir en géante rouge, pardon, et puis en naine blanche. Et pour des étoiles plus massives, on arrivait jusqu'aux étoiles à neutrons. Alors étoiles à neutrons, c'était quand même déjà des objets un petit peu étranges, hein, dans cette histoire de bestiaire cosmologique, puisqu'on se retrouve avec une étoile qui va faire quelques dizaines de kilomètres de rayon. À comparer avec le rayon du Soleil, c'est 750 000 km, donc on voit un petit peu la différence. Et là, on va avoir quelques dizaines de kilomètres et avec une matière qui n'est constituée que de neutrons. Donc les neutrons, c'est les constituants de la des matière noyaux. Des noyaux. Ouais. Les noyaux sont constitués de protons et de neutrons. Et là, il n'y a que des neutrons et un dé à coudre de cette matière pèse plusieurs milliards de tonnes. Donc on est déjà dans des choses un petit peu étranges. Maintenant, là, on va aller encore plus loin avec le trou noir. Des étoiles encore plus massives, c'est-à-dire à partir de 3 ou 4 masses solaires, vont pouvoir commencer à donner des trous noirs. Je crois que la limite, d'ailleurs, c'est 3,3 masses solaires. C'est Oppenheimer, d'ailleurs, justement, qui a fait des travaux là-dessus. Il a montré, en fait, à la fin des années 30, c'était en 39, je crois, d'ailleurs. Sa découverte a été éclipsée par l'invasion de la Pologne par Hitler, en fait. Ouais. Donc, tout le monde s'est mis à parler de ça. Forcément, c'était le début de la Deuxième Guerre mondiale. Mais en fait, il a publié ça quelques jours avant.
Et puis, à la fin de la guerre, on a parlé de lui pour autre chose.
Pour la bombe atomique. Alors, en tout cas, les trous noirs, là, ce dont je vais parler aujourd'hui, ça s'inspire pas mal des travaux de Carlo Rovelli. Carlo Rovelli, c'est un physicien italien qui est connu pour avoir développé la théorie quantique à boucle. Alors, j'ai déjà parlé de ce monsieur dans l'épisode 40 de l'étoile polaire, oui, parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle « Le temps n'existe pas ». Rien que ça. Et il expliquait en fait que lui, en tant que physicien, donc ce monsieur est un physicien théoricien extrêmement connu. Hein. On est sur quelqu'un qui est vraiment, qui a fait de la recherche très pointue, qui est reconnu par ses pairs. Enfin voilà, c'est un physicien vraiment important et sérieux. Et alors qui est plutôt en fin de carrière là maintenant. Mais en tout cas, dans les années 70, il est un des fondateurs de ce qu'on appelle la théorie quantique à boucle. Je vais expliquer rapidement parce que ça fait un peu partie du truc. On a cette dualité en physique théorique qui est qu'on a une théorie pour décrire le monde à grande échelle, l'univers à grande échelle, qui va être la gravitation, la relativité générale d'Einstein. Et pour tout ce qui concerne l'infiniment petit, on a la mécanique quantique. Et en réalité, ces deux physiques-là sont complètement incompatibles. Les équations ne sont pas les mêmes. Donc on a déjà eu l'occasion de le mentionner, mais ça fait des dizaines d'années que les physiciens cherchent à unifier tout ça. Donc on appelle ça théorie de grande unification, ou M-théorie, M comme mystère. Voilà. Et donc on est sûr que la mécanique quantique fonctionne. L'expérience l'a montré à tellement de reprises que c'est même plus la peine d'en discuter. Idem avec la relativité générale, qui a été démontrée, y compris par l'expérience. Donc ça, c'est solide. Mais on n'arrive pas à mettre les deux ensemble, et en particulier, on n'arrive pas, avec la mécanique quantique, à sortir de ces histoires un petit peu étranges. On a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises dans l'émission, je vous renvoie à ces émissions-là, mais tout ce qui est le chat Schrödinger, etc., ces trucs où, en fait, on nous dit que la matière n'est pas dans un état réellement déterminé, elle est dans une série de probabilités d'états, et que si on observe le système, alors on force le système à se projeter dans un de ces états. Donc on est dans des logiques qui n'ont complètement rien à voir avec ce qu'on observe au niveau macroscopique, et c'est irréconciliable. Donc en fait, monsieur Rovelli, Carlo Rovelli, il travaille là-dessus, et ils ont quand même fait des grosses avancées en réécrivant la mécanique quantique avec un nouveau formalisme, et surtout en plaçant ça dans un univers à 11 dimensions. Et c'est là, en fait, alors ça taille 4, 7, 11, bon, nous on vit dans un univers à 4 dimensions qui sont trois dimensions d'espace, le haut, le bas et la profondeur, si vous voulez, et puis le temps. Donc déjà, en relativité générale, on parle d'espace-temps. Ça, c'est vraiment la grosse différence, en fait, entre Einstein et ce qui a pu se passer avant. C'est d'imaginer, c'est pas d'imaginer, c'est de placer, en fait, la physique en quatre dimensions. Et là, ce que dit Rovelli, en fait, et tout ce courant de pensée, dire 4, c'est bien gentil, mais en réalité, il y en a 11, dont 7 qui sont repliées sur elles-mêmes. C'est-à-dire 7 qui doivent exister, parce que si elles n'existent pas, mathématiquement, je n'arrive pas, en fait, à faire une théorie d'unification. Ça ne marchera jamais. Me demandez pas pourquoi. Là, ça dépasse largement mes compétences.
Oui, là, c'est des maths.
Ah, là, c'est super pointu. Ouf, là, ouais. Là, on est vraiment à la pointe de ce que le cerveau humain est capable d'appréhender actuellement. Quoi.
Ouais. Grâce à l'abstraction que permettent les maths. Quoi.
Tout à fait. Ouais. Mais en gardant une connexion quand même avec la physique, puisqu'on est quand même en train de décrire la matière. On est quand même en train de décrire un objet qui, lui, n'est pas abstrait, qui est la réalité du monde qui nous entoure. Donc voilà. Et alors, cette théorie quantique à boucle, clairement, on ne peut pas encore la démontrer. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi on dit des boucles ? C'est justement parce que ces dimensions sont repliées sur elles-mêmes. Donc ça ferait comme des petites boucles. Alors, repliées sur elles-mêmes, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas accès à ces dimensions-là, tout simplement. Mais donc, ça serait replié comme des petites boucles. Voilà. Mais le fait de mettre ces petites boucles, ça ouvre tout un tas de possibilités mathématiques qui font qu'on peut dérouler des équations et que les choses vont avancer, théoriquement. Donc, voilà le type. C'est peut-être un peu abstrait, mais voilà ce que fait Carlo Rovelli. Donc, lui, il a travaillé sur les trous noirs et du coup aussi sur les trous blancs. Alors, c'est ça que je veux un petit peu mentionner. Alors déjà, sur les trous noirs, il y a quand même un prix Nobel qui est tombé il y a, je sais plus, 2 ans, pour la première observation d'un trou noir, la première photo d'un trou noir. En fait.
Ah oui.
Donc ça, c'est le trou noir du cœur d'une galaxie qui est dans la Vierge, M87. Ouais. Et là, il y a eu un prix Nobel pour ça. Donc, on est quand même sur un truc sérieux. Et l'autre chose aussi qu'il faut mentionner, c'est la détection des ondes gravitationnelles. C'est-à-dire qu'on a des détecteurs d'ondes gravitationnelles qu'on a réussi à faire fonctionner. Je ne vais pas trop m'étendre parce que là, on en a déjà fait, les ondes gravitationnelles, on en a déjà parlé. Mais toujours dans cette idée que de toute façon, la nature de l'univers est à la fois corpusculaire et ondulatoire, c'est-à-dire qu'à la fois, je peux voir les choses comme des petites balles qui se promènent, mais à la fois, tout est une onde. Eh bien, la gravitation aussi, associée à ça, il y a des ondes gravitationnelles qu'on peut capter. Ça veut dire quoi, pour être un peu clair, que par exemple, s'il y a un événement cataclysmique quelque part dans l'univers, quand je dis cataclysmique, c'est par exemple une étoile qui se fait aspirer par un trou noir, des choses qui dégagent du coup une énergie énorme en réalité et qui mettent en jeu des grosses masses, on va avoir en fait une sorte de petite perturbation dans le champ gravitationnel, et cette perturbation va se propager et on va être capable de la détecter. Alors là, on est vraiment à la limite en fait des capacités de détection qu'on a. Les ondes gravitationnelles, pendant même longtemps, on n'était même pas sûr qu'on puisse réellement les observer. Mais là aussi, il me semble que ça s'appelle Virgo, le détecteur Virgo gravitationnel. Virgo, il y en a deux. Ça ne fait que quelques années que ça se met à fonctionner et qu'on arrive à effectivement faire des détections.
Ah, c'est 2016 ou 17, je crois, le premier.
C'est quand même relativement récent. Et ça marche. Donc voilà. Et donc ça, on l'observe en fait. Donc c'est pour dire que voilà, déjà sur les trous noirs, il y a quand même une base observationnelle. On a fait du chemin. Parce que, il ne serait-ce qu'il y a 50 ans, on restait sur quelque chose qui était spéculatif. Donc, il y a quand même du chemin. Et je voudrais aussi mentionner qu'il y a deux grands types de trous noirs, quand même. Il y a ce qu'on va appeler les trous noirs stellaires, et sur lesquels je vais me concentrer maintenant, c'est-à-dire des trous noirs qui sont issus de la fin de vie d'une étoile très massive. Il y a aussi les trous noirs, ce qu'on va appeler les trous noirs supermassifs, qu'on trouve au cœur des galaxies. Donc là aussi, alors quand je dis supermassif, c'est-à-dire qu'on est de l'ordre de plusieurs millions, voire de milliards de masses solaires. Donc là, on atteint des... C'est vraiment supermassif. C'est effectivement une autre échelle. Et alors, il semblerait que ces trous noirs-là soient eux dus non pas à la fin de vie d'une étoile, parce que c'est impossible de trouver une masse pareille, mais en fait, seraient plutôt des trous noirs issus d'effondrements de gros nuages de gaz qui resteraient, qui seraient là au cœur de la galaxie, mais qui seraient issus du Big Bang, en fait.
Ah oui.
Bon, là, on est dans la théorie. Hein. Là, pour le coup, en tout cas, c'est ce qui n'est pas théorique, c'est la présence de ces trous noirs supermassifs, parce qu'effectivement, on détecte d'énormes concentrations de masse sur des zones de l'espace qui sont quand même assez réduites, et rien d'autre qu'un trou noir ne peut occuper aussi peu de place et avoir autant de masse.
Ouais, ouais.
C'est le seul état de la matière qui le permet. Oui. Donc,
comme je disais en antenne, on a ces vidéos time-lapse, je crois réalisées par Hubble, sur 15 ans, quelque chose comme ça, de 1995 à 2010, où on voit... Il a braqué sur le centre de la galaxie, de notre galaxie. Et on voit des étoiles à cet endroit qui tournent autour de rien.
Exactement. Et qui tournent vite.
Oui, il y a 7-8 étoiles là. Elles tournent autour de rien. Donc rien, c'est bizarre.
Rien, ça n'existe pas. Voilà. Et puis de toute façon, on est bien obligé d'avoir, même dans la façon d'aborder la dynamique de la galaxie et de voir comment les étoiles elles tournent autour du centre galactique, on voit bien qu'il y a obligatoirement dans les équations une énorme masse qui sort. Alors après, on a d'autres problèmes qui sont liés aux histoires de matière noire, et on en a déjà parlé aussi, on ne va pas reprendre ici, et qui font qu'on n'arrive pas à trouver la bonne rotation non plus, mais ça c'est encore un autre débat. Alors, voilà, donc c'est deux types quand même de trous noirs qui n'ont absolument rien à voir l'un avec les autres, hein, puisqu'on a on a un million ou un milliard de différences en termes de masse. Donc c'est pas du tout les mêmes objets.
Oui,
quoi.
Oui.
Donc là, moi, ce dont je vais parler, c'est plutôt des trous noirs stellaires.
Okay.
Donc, on continue, on reprend un petit peu ce qu'on avait vu la dernière fois. Une étoile très massive... Qui s'effondre sur elle-même parce qu'elle n'a plus de, elle n'a plus de carburant, elle n'a plus de, alors quand on dit carburant, là, c'est de l'hydrogène.
Pas du diesel.
Non. Alors qu'est-ce qui va se passer? Imaginez cette énorme masse là. Donc on est à partir de, c'est donc effectivement Oppenheimer qui avait trouvé, je crois, le premier cette limite. Il dit qu'à partir de 3,3 masses solaires, quand une étoile s'effondre, il y a tellement de masse en fait que il n'y a rien qui va pouvoir stopper l'effondrement de la gravité. C'est ça, en fait. Parce que si vous regardez même une étoile, disons une géante rouge, donc qui finit en naine blanche, ou bien même une étoile à neutrons, on a quand même un moment où la matière va se stabiliser sur un objet qui a bon qui a voilà qui est peut-être bizarre, qui est peut-être dense, etc., mais qui a une taille finie, qui est là et qu'on, ouais. et qu'on peut qui fait encore partie, on va dire, de l'univers observable, quoi.
Ouais.
Mais si on a suffisamment, donc il y a bien quelque chose qui vient contrebalancer en fait cet effondrement à un moment et qui vient l'arrêter. Mais dans le cas du trou noir, en fait, l'idée, c'est que c'est tellement massif qu'il n'y a rien qui peut s'opposer à la gravitation. Et donc, on va s'effondrer. Et là, on va atteindre ce qu'on va appeler une singularité, c'est-à-dire un moment où, en fait, le trou noir devient tellement... En fait, il fait un trou dans l'espace-temps. En fait, dans les équations, c'est ça qui se passe. Et c'est bien là tout le problème, en fait, et qui dit que, qu'en fait, on ne comprend pas. Parce
oui,
que
oui,
quand les maths se mettent à diverger, hein, en maths on dit, c'est-à-dire que ça tend vers l'infini,
c'est,
ou des c'est qu'en fait il y a un truc qu'on n'a pas compris. Parce que là, nous on n'est pas en train de faire des maths, on utilise les maths mais on fait de la physique, donc on parle d'objets réels. Donc si ça tend vers l'infini, il n'y a rien qui tend vers l'infini, ça ne marche pas. Donc c'est-à-dire que les maths, les équations ne sont pas correctes, qu'on n'a pas compris en fait. Donc voilà, on atteint un point de singularité.
Ouais, comme au Big Bang, où on parle de singularité, et c'est pareil, parce qu'on voit... Avec les équations, en remontant le temps, on arrive à quelque chose d'infini, de température infinie, pression infinie. Donc on dit, bon, c'est sûrement pas ça, il faut qu'on continue à plancher dessus. Quoi.
Si on peut, ouais, si tant est que nos équations aient encore du sens dans le cadre d'un début d'univers, tout simplement. Bon, bref.
Ouais.
Alors il y a tout un tas d'effets un peu étranges. Je vais quand même mentionner l'horizon des événements. Pour un trou noir, l'horizon, en fait, c'est là que va vraiment intervenir cette discontinuité en fait dans l'espace-temps. C'est-à-dire qu'on sait que si on traverse cette limite, cette distance, si on s'approche à moins de cette distance en fait d'un trou noir, alors il n'y a pas de retour en arrière possible, et même la lumière est piégée. C'était aussi un peu, d'ailleurs, il y avait au tout début. Avant, au tout début, c'est-à-dire au 17e, même au 18e siècle, en fait, plutôt 19e, ils avaient commencé à se poser la question, est-ce qu'on peut imaginer un objet suffisamment massif pour que la vitesse de libération soit supérieure à celle de la lumière ? La vitesse de la libération, c'est la vitesse qu'il faut atteindre pour se libérer du champ gravitationnel d'un astre. Donc évidemment, ça dépend de la masse de cet astre. Sur Terre, c'est quelque chose comme, 10 km secondes, je m'en rappelle.
Ah ouais, je sais.
C'est un truc de cet ordre-là, il me semble. Bon, il y a une...
Oui, c'est ça, en kilomètre heure, ouais, c'est 50 000 ou quelque chose comme ça, 60 000.
C'est la vitesse à laquelle il faut lancer un projectile pour qu'il sorte,
pas,
en fait. Il ne retombe pas sur Terre.
Ouais,
voilà. C'est ça, la vitesse de libération. Et on dit, bon, est-ce qu'on pourrait imaginer quelque chose où la vitesse de libération est supérieure à la vitesse de la lumière, qui avait déjà été mesurée, hein, à la fin du 19e. Il se posait cette question-là. Et ben, le trou noir, c'est un peu ça. Alors, sauf qu'on ne peut pas vraiment l'appréhender en termes de vitesse de libération. En plus, c'est un peu bizarre, puisque la lumière n'ayant pas de masse, on voit mal comment un photon pourrait être piégé comme une balle de fusil. Mais en réalité, il faut appréhender tout ça dans l'espace-temps. De la même façon, en fait, qu'Einstein, les équations d'Einstein, ce qu'elle disait, c'est quoi ? C'est qu'une masse... Dans l'espace-temps, il faut imaginer, par exemple, une orange sur un oreiller, quoi, ou une balle sur un oreiller. L'oreiller, c'est l'espace-temps. Et la balle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle déforme cet espace-temps. Donc, du coup, elle va courber les rayons de la lumière à son voisinage. Et bien, il faut imaginer que le trou noir, en fait, c'est-à-dire que là, la déformation, c'est pas juste on déforme l'oreiller, c'est on fait un trou dedans. Il y a tout qui tombe.
Ouais.
Voilà. Alors, je veux mentionner quand même Stephen Hawking, qui a contribué de façon significative à la théorie des trous noirs dans les années 70. Donc, Stephen Hawking, lui, c'est un Britannique qui était atteint de la maladie de Charcot. Bon, il est assez connu, il y a un film sur lui, etc. Et lui, il parle d'évaporation des trous noirs. C'est-à-dire, on dit, OK, le trou noir, il n'y a rien qui peut s'en échapper. Aucune énergie, aucune matière ne peut s'échapper d'un trou noir. Mais, en fait, Stephen Hawking montre que, en fait, un trou noir perd quand même de l'énergie. Et c'est ce qu'il va appeler l'évaporation des trous noirs, qu'il y a quand même des petites particules qui peuvent, dans certaines conditions, etc., se passer. Alors, je mentionne que ça n'a jamais été observé. Donc, cette théorie n'a jamais été observée, mais il y a une sorte d'accord tacite dans la communauté scientifique pour dire, en fait, les calculs qu'il a faits nous semble complètement cohérent et juste, on valide. C'est juste qu'on ne l'a jamais observé. Peut-être qu'on n'a pas les moyens de l'observer. Donc, On ne peut pas dire oui, c'est vrai, de façon certaine, mais on dit qu'il y a quand même de très grandes chances pour que ça soit vrai, même si on ne l'a pas observé, et on attend que les observations puissent le confirmer. Donc ça, c'est le travail de Stephen Hawking, et c'est ça, sa contribution au truc.
Ça s'appelle d'ailleurs aujourd'hui le rayonnement de Hawking. Oui. Je crois, c'était hypothétique. Ouais.
Et donc là où ça devient intéressant, et, c'est que si, si le trou noir perd de l'énergie, ce qui va se passer, c'est que son horizon va devenir de plus en plus petit. Hein, j'ai dit l'horizon, c'est l'endroit où si on traverse cette ligne imaginaire, il n'y a plus de retour en arrière, on ne peut plus s'extirper en fait, de l'attraction du trou noir. Donc ça, on imagine bien que plus c'est gros, plus cet horizon est grand. Enfin, oui. Plus il y a une masse, plus il y a d'énergie, plus c'est lourd, plus il vous attire à une distance loin. Quoi. Oui. Donc on va imaginer aussi que si en fait il y a une évaporation du trou noir, il y a une perte d'énergie, et ben cet horizon va petit à petit diminuer, en fait, devenir de plus en plus petit. Et c'est là en fait que Carlo Rovelli va sortir son histoire de trou blanc pour lui, en tout cas. Il dit le jour où l'horizon du trou noir devient en fait tellement petit qu'il atteint une taille quantique, en fait, on atteint vraiment une micro taille. Et ben à ce moment-là, en fait, il y a un moment où il ne pourra plus, il va y avoir une sorte de rebond. De la même façon, en fait, on avait parlé des histoires de rebonds, qu'on avait des supernovas, qu'on a cet effondrement. D'ailleurs, je vais en mentionner. Hein. Je vais revenir un peu là-dessus parce que c'est intéressant. Mais il y a cette idée qu'à un moment, on ne va pas pouvoir comprimer plus que ça la matière et que donc, comme un ressort qu'on comprime, on n'arrive pas à casser le ressort. Donc, boum, ça va repartir dans l'autre sens. Voilà, l'analogie, on pourrait la faire comme ça. Ouais. Et que là, du coup, ben, on pourrait avoir donc ce qu'il appelle un rebond quantique. Et que donc, en fait, tout ce qui était à l'intérieur du trou noir se retrouverait libéré à ce moment-là. Tout ce que le trou noir aurait capté. Hein. Mmh. Alors là, on est dans la théorie de la théorie de la théorie. Mais on pourrait... Il dit, bon, ça, on ne l'observe pas. La question qu'on peut se poser, c'est aussi combien de temps ça peut prendre à un trou noir pour s'évaporer. Ça se trouve, ça prend plus de temps que l'âge de l'univers. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'a pas observé. Ouais, ouais. On n'en sait rien.
Oui, il n'y avait peut-être pas de trou noir assez vieux aujourd'hui
pour en arriver là. Exactement. Ouais. En fait, on n'en sait rien. Ouais. Alors, je voulais juste préciser ces histoires de rebond, même dans le cas des supernovas, parce que là, ça nous amène un petit peu aux interactions fondamentales de la physique. Qu'est-ce qui empêche en fait deux atomes déjà de faire la fusion? Qu'est-ce qui l'empêche? C'est la barrière électrostatique. C'est-à-dire que les atomes, ils sont faits, comme on l'a dit, de protons et de neutrons. Donc le proton, il est chargé positivement. Donc deux charges positives, elles se repoussent. Donc, comme les aimants, de la même façon que deux charges négatives se repoussent. Donc en fait, si vous voulez arriver à faire de la fusion, en fait, il faut passer la répulsion électromagnétique. Donc, avoir suffisamment de pression pour qu'en fait, les deux atomes, pour les forcer en fait à se coller. Et donc, quand on les force à se coller, là, l'interaction forte va intervenir et on va avoir donc un noyau plus gros qui va se former. Et de la même façon, en fait, quand vous continuez à écraser la matière, eh bien, vous allez avoir, pareil, ce système de rebond. Parce qu'au bout d'un moment, les protons, ils ne vont pas vouloir rentrer l'un dans l'autre. Ils vont pas vouloir, voilà. Il y a un moment où on peut amalgamer les protons ensemble, d'accord, ou les neutrons, hein, dans le cas d'une étoile à neutrons. Mais on ne peut pas non plus réduire ces choses-là à des tailles inférieures à ce qu'elles sont. Quoi. Et donc, il y a un moment où on va avoir le rebond. Sauf dans le cas du... Enfin, là, je parle de la matière. Sauf dans le cas du trou noir, où là, en fait, la masse est tellement énorme que, bah, effectivement, on va, entre guillemets, trouer l'espace-temps et créer cet objet complètement étrange qu'est le trou noir. Je vais m'arrêter là pour cette semaine. J'espère ne pas vous avoir trop perdu. En tout cas, voilà, c'est surtout, matière à réflexion, le trou noir. C'est souvent des questions qu'on nous pose, c'est parmi les premières questions qu'on nous pose à chaque fois qu'on fait une soirée astro, il y a toujours l'histoire du trou noir qui vient, parce que c'est vrai que ces objets qui sont assez fascinants, mais qui en même temps, pour les comprendre, demandent quand même en fait des connaissances de physique théorique relativement pointues, et c'est pas des réponses qu'on peut faire en deux secondes. Voilà, on peut quand même garder en tête cette histoire de le trou noir, c'est la fin de vie d'une étoile hypermassive. Et puis, gardez en tête ces trous noirs supermassifs au centre des galaxies, qui aussi sont de bien étranges objets. Et on verra plus tard, dans la suite de la science, ce qu'on arrivera à prendre dessus.
Bah, merci, Fred.
On vous souhaite une bonne semaine et on vous souhaite de bonnes observations.
Ouais.
Ciao.
Bonne journée sur RDWA.